Vous écoutez Le son de la terre, spécial Salon de l'agriculture. Bonjour à vous et bienvenue à cette première de trois éditions spéciales du balado Le son de la terre. Dans le cadre du Salon de l'agriculture, j'ai été invité à animer trois panels de discussion sur des sujets agricoles variés. Chacune de ces rencontres a permis à trois intervenants d'échanger sur des enjeux de l'heure tels que la biométhanisation, les nouvelles technologies à la ferme et le bien-être animal. Ces rencontres ont été tellement nourrissantes que nous avons décidé de vous les diffuser dans leur intégralité en trois parties. Dans la première partie, il sera question d'énergie et de biométhanisation. Bonne écoute!
Alors, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce panel de discussion, le premier de trois cette semaine. Et on va discuter d'énergie renouvelable. Pour la prochaine heure, on va traiter principalement de l'enjeu de l'heure dans le monde des énergies renouvelables et j'ai nommé la biométhanisation. Pour en parler, on a réuni trois personnes qui sont ici, qui œuvrent dans le milieu, soit Raphaël Duquette, qui est directeur principal approvisionnement, et je vais les lire comme il faut parce que c'est très important des titres, directeur principal approvisionnement et développement des gaz renouvelables chez Énergir. On a Josée Chicoine, qui est directrice agroalimentaire chez Coop Carbone et co-directrice générale chez Coop Agri-Énergie Warwick, ainsi que Simon Naylor, président chez Kiridis Bioénergie et vice-président traitement et transformation chez Viridis Environnement. On les a bien eus?
C'est parfait. Bon.
Parfait. Excellent. Alors, je commencerai peut-être. Je sais que vous avez plusieurs visages connus dans la salle, ouais. Mais on va quand même y aller d'une petite présentation chacun. Vous présenter un peu, présenter votre entreprise, présenter ce que vous faites. Ouais. Donc, on pourrait commencer avec Raphaël.
Donc, enchanté pour ceux que je ne connais pas. Donc, vous et vous. Et vous, madame, derrière, je ne vous connais pas non plus. Donc, enchanté, moi, c'est Raphaël Duquette. Mon titre, effectivement, directeur aux approvisionnements et au développement des gaz renouvelables chez Énergir. Je suis ingénieur de formation. J'ai passé 10 ans au début de ma carrière à être en génie conseil, principalement pour faire la conception d'usines de biométhanisation. Donc, je me suis spécialisé là-dedans. Ça fait 5 ans, un petit peu plus que 5 ans que j'ai joint Énergir. Donc, Énergir, pour ceux qui ne le connaissent pas, le principal distributeur gazier du Québec. Donc, j'ai joint Énergir pour développer la filière des gaz renouvelables. Donc, le rôle de notre équipe, là, c'est de faciliter le développement de projets de gaz renouvelables. Donc, que ce soit à partir de fumier, que ce soit des projets municipaux, donc aider accompagner, par exemple, en faisant des représentations gouvernementales, en essayant d'aller chercher des conditions économiques favorables pour le développement de projets et aussi de donner des conditions d'achat du gaz qui vont faire en sorte que les projets vont être rentables. Donc, voilà, je vais m'arrêter là puis je vais laisser la parole à mes collègues.
Excellent. José?
Oui, bonjour tout le monde.
C'est assez. Oui, on t'entend.
José Chicoine, je suis. Je ne répéterai pas mon titre, mais en fait, je suis agronome de formation. J'ai travaillé, j'ai œuvré en fait une quinzaine d'années dans le réseau des coopératives agricoles, anciennement à la coop fédérée, ensuite la coop Solio, mais bon, donc plusieurs années dans le secteur de l'environnement. J'ai travaillé beaucoup à la recherche de solutions de traitement des lisiers fumiers, aussi des essais en biométhanisation il y a plusieurs années, autour de 2005-2008, sur des projets plutôt collaboratifs, plutôt regroupés. Les conditions n'étaient pas à ce moment-là favorables au développement de la biométhanisation. Elles le sont maintenant, principalement le plus grand, on dirait, game changer étant Énergir, qui est capable de donner, de payer en fait actuellement ce que ça vaut en fait pour rentabiliser les investissements nécessaires à la biométhanisation, à la purification et à l'injection. Je suis à l'origine en fait du projet de la coop Agri-Énergie Warwick à Warwick, qui est le premier projet agricole au Québec, un projet qui regroupe une douzaine de producteurs agricoles et un producteur fromager. C'est un projet là, qui génère 2,3 millions de mètres cubes de gaz naturel annuellement. On est en opération depuis 2021, le juin 2021, donc un peu plus d'un an. Et voilà, on est à l'origine de ce projet-là. Puis ça va me faire plaisir de, d'en discuter à travers les questions. Voilà.
Merci. Simon?
Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Simon Naylor. Je suis agronome aussi. Et il y a une dizaine d'années, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Viridis Environnement qui, cette année, va avoir permis l'économie de 170 000 tonnes d'équivalent CO2 juste par ses opérations de recyclage de matières résiduelles fertilisantes dans les champs de nos partenaires clés, les agriculteurs du Québec. Ça équivaut à 46 000 voitures, 75 millions de litres de carburant. Je suis vraiment fier de ça. C'est ma plus belle réalisation de carrière. Et j'ai décidé avec mes collègues de poursuivre plus loin dans cette direction-là de carboneutralisation de l'agriculture québécoise. Puis on a parti une start-up qui s'appelle Keridis Bioénergie avec un partenaire français, le groupe Kéon, qui en ont construit 60 depuis les 15 dernières années en France, qui en opère plusieurs et qui en possède aussi. Donc, on est allé se marier avec une expertise française spécifique pour des projets de taille agricole qu'on pense qu'ils sont parfaitement intégrés dans l'agriculture du Québec. Et on agit donc Keridis comme promoteur, investisseur dans des projets de biométhanisation sur tout le territoire du Québec.
Excellent. Bien, merci à vous trois. Tout d'abord, je commencerai avec une question, peut-être une question qui peut vous sembler simple, mais c'est quoi la biométhanisation exactement d'un point de vue technique? Donc peut-être, je ne sais pas, José, travailler dans un projet…
Le GNR.
OK. Bien, je peux me lancer. En fait, la biométhanisation, en fait, c'est des bactéries, en fait, qu'on utilise pour, si on veut, là, dans un terme très simple, manger la matière organique qu'on lui donne dans des conditions anaérobiques. Donc, on peut comparer ça à des silos hermétiques, un peu le même principe. En fait, on a un système anaérobique qui donne les conditions, puis on l'amène dans les conditions idéales de température, de pH, pour que les bactéries puissent faire leur travail plus activement que si on les laissait faire normalement. Donc, ils vont manger la matière organique, on va produire du biogaz qui, lui, est constitué entre 60-65% de méthane. Puis ensuite, ce qui fait que c'est du biométhane et non pas du biogaz, bien, c'est qu'on va, aller purifier ce biogaz-là pour enlever principalement le CO2 qu'il contient en grande, très, très grande partie. Après ça, quelques impuretés qu'on pourrait nommer d'impuretés, mais je pense à de l'eau, à de l'oxygène, des choses qui ne sont pas désirables dans le réseau d'énergie. Puis ben ensuite, on va prendre ce biométhane-là, puis il va être injecté là, dans le réseau d'énergie.
Et au niveau des… Bon, là, c'est une réponse très scientifique aussi, mais d'un point de vue technique pour l'agriculteur, on parle de la collecter le fumier, ensuite il s'en va à une usine. Le processus, si on veut, pour l'agriculteur, ça ressemble à quoi?
Oui, je ne sais jamais à qui on s'adresse, mais oui, on le fait. C'est vrai qu'on le fait avec nos producteurs. Là. Je peux me lancer, mais en fait, on prend le lisier fumier qu'on retrouve chez les producteurs agricoles, on le prend de leur pré-fosse. Fait qu'en gros, c'est comme si on fait un bypass de la pré-fosse pour aller vers le site de biométhanisation. Puis ensuite, c'est retourner le digesta qui est produit, donc qui est issu. D'un côté, on produit du gaz naturel de sources renouvelables, mais de l'autre côté, on produit du digesta, donc la matière qui a été, elle, digérée, qui est retournée chez les producteurs agricoles. Donc, on prend dans la pré-fosse, on va faire la transformation par la biométhanisation, puis c'est retourné chez les producteurs agricoles pour l'épandage sensiblement de la même façon qu'ils sont habitués de le faire, avec peut-être certaines contraintes qui sont un peu différentes liées au fait que le digesta est maintenant devenu une matière résiduelle fertilisante, une MRF, que Simon connaît très bien.
C'est sûr que ça change l'encadrement réglementaire, mais tu sais, pour rebondir sur ta définition de la biométhanisation, moi, je pourrais te dire peut-être qu'est-ce que c'est pas, la biométhanisation. La biométhanisation, c'est la slide numéro 6 dans mon PowerPoint. Tu sais, on a un petit dessin, on vous enverrait ça. Mais concrètement, c'est pas rocket science, mais c'est pas non plus quelque chose qui roule les yeux fermés. Ça demande une attention contenue. C'est vivant. La biométhanisation, ce n'est pas non plus un trou noir dans lequel on fait disparaître le fumier, le lisier parce qu'on est en surplus de phosphore ou qu'on fait disparaître les matières résiduelles parce qu'on a une subvention et on veut plus envoyer ça à l'enfouissement. Ce n'est pas ça. Tout ce qui rentre dans le biométhaniseur ressort du biométhaniseur. Tout le phosphore, l'azote, le potassium va ressortir du biométhaniseur. Donc, elle ne fait pas disparaître la fertilisation. Même au contraire, elle va la préparer pour qu'elle soit plus fertilisante. Et dans le fond, la biométhanisation, simplement, c'est un processus naturel qui a lieu dans le rumen d'une vache, par exemple, puis qui va permettre d'extraire sous forme de méthane la matière organique compliquée, puis la casser en plus petits morceaux. C'est ça, la biométhanisation.
Très belle explication. Raphaël, d'un point de vue économique, d'un point de vue de marché, comment ça fonctionne pour le producteur exactement?
Oui, donc... José le disait, une fois que le gaz est traité, puis il peut ensuite être injecté dans le réseau d'énergie. Avant de répondre peut-être à ta question, là, il y a peut-être des particularités. Là, il y a des gens qui se demandent comment on s'assure de la sécurité, puis comment on s'assure de la qualité du gaz qui est injecté dans le réseau. Donc, il y a un suivi qui est quand même fait de façon continue là, dans l'ensemble du gaz qui est injecté dans le réseau et analysé pour s'assurer qu'il est 100% interchangeable avec du gaz naturel pas renouvelable. Donc, quand il est injecté dans le réseau, il se mélange au gaz, il est complètement interchangeable, c'est-à-dire que, par exemple, un client qui veut consommer du gaz renouvelable, bien, il n'aura pas besoin de changer ses équipements, il n'aura pas besoin de faire des modifications à ses installations pour être en mesure d'utiliser ce gaz-là. Puis ça fait en sorte que bien, ça permet rapidement là, à nos clients de pouvoir se décarboner puis d'utiliser un gaz renouvelable. Donc, ça répond à ça fait un segue avec le marché. Là.
Donc, ultimement, c'est transparent pour le client.
Donc, le client, lui, ce qu'il peut faire, c'est sur sa facture, il peut dire, ben moi, je veux acheter une portion de gaz renouvelable qui va être acheté à un prix différent que le gaz conventionnel parce qu'effectivement, ben le gaz renouvelable coûte plus cher à produire, il coûte donc plus cher à vendre. Le marché, comment il s'est généré? Là, au Québec, Énergir, on doit vendre le gaz au même prix qu'on l'achète. Donc, il n'y a pas on fait pas de profit là, sur l'achat du gaz puis la revente du gaz. Donc, on achète un prix, on le revend au même prix à nos clients. Puis, c'est vraiment par la demande de notre clientèle qui veulent se décarboner qu'il y a un marché qui s'est généré puis qu'on a dû aller chercher plus de gaz renouvelable à un prix qui fait en sorte que, comme je le disais, qui fait en sorte que les projets peuvent être rentables. Là, le marché, là, de façon générale, c'est très large, là, mais ce que je peux dire, c'est que il y a eu beaucoup d'avancements dans les dernières années. Entre autres, là, un des gros avancements, un des gros jalons, c'est qu'il y a le gouvernement du Québec qui a imposé un règlement sur une portion de gaz renouvelable qui doit être distribué par les distributeurs gaziers. Ça a fait en sorte que ça a généré un marché. Donc là, on a une obligation Énergir d'avoir 5 % de gaz renouvelable dans notre réseau d'ici 2025, puis 10 % d'ici 2030. Donc, ça génère une demande, puis ça a fait en sorte que on est en mesure de payer plus cher pour le gaz. Donc, comme je le disais, on offre des conditions tarifaires qui font en sorte que les projets vont être rentables. Nous, comment on fonctionne, c'est on s'assoit avec les promoteurs, là, que ce soit avec Simon ou avec José, puis on regarde quel est le prix que vous avez besoin pour rendre votre projet rentable. Puis, on s'entend sur justement le prix qui est nécessaire pour que ce projet-là soit rentable. Puis, je vais m'arrêter là, puis Simon...
Bien, je peux me permettre d'avoir ce commentaire-là parce que je sais que vous avez aussi les mains liées puis vous gouvernez sous la régie de l'énergie. Au Québec, il y a une régie de l'énergie qui a pour but de protéger les prix de l'énergie pour les consommateurs. Malheureusement, la régie de l'énergie, elle ne s'est pas faite donner un objectif de verdir le portefeuille énergétique et d'assumer ce que ça coûte. Ça, c'est quelque chose qu'on a hâte qu'il soit transmis vers la régie, qui va permettre à notre acheteur de nous donner plus d'argent pour le GNR. Parce que là, tu sais, au Québec, nos agriculteurs, là, c'est des pros, c'est des grosses fermes, c'est du monde, c'est son business. sont curieux, sont scientifiques, ils veulent se diversifier. Fait que de la biométhanisation, là, ça fait 10-15 ans qu'on en aurait ici si c'était un environnement d'affaires favorable. L'environnement d'affaires pour produire du biogaz, il est en train de devenir favorable à cause notamment qu'Énergir peut commencer à nous payer ce qui ressemble à un vrai prix pour produire du GNR agricole. Je suis sûr que tu peux parler de ça pendant une semaine. Et également parce que le ministère, certains ministères, notamment celui des ressources naturelles, donnent des subventions importantes pour les coûts de construction. Donc, parce que naturellement, pour nous, le compétitionner contre du gaz de schiste albertain, là, c'est bien difficile.
Est-ce qu'il y a... on parlait tout à l'heure, je pense que c'est José, tu parlais d'un game changer, là, depuis qu'il y a eu des changements, depuis 2005-2008, les premières idéations. Est-ce qu'il y a aussi plus d'ouverture de la part du côté des producteurs aussi avec tout ce qui se passe de verdir justement un peu leur pratique?
Je dirais qu'il y a plus... J'ai parlé d'un game changer, puis on parle du prix de l'énergie parce que ultimement, s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas le faire, le projet n'est pas rentable. La première chose que tu vas regarder, c'est la rentabilité du projet puis sa pérennité. Mais il y a plusieurs autres facteurs qui font qu'actuellement, la biométhanisation, on est dans un contexte favorable. Je pense que l'un des premiers facteurs, c'est la situation climatique actuelle. Il y a une urgence climatique actuellement. Puis je pense que si personne ne le sait encore aujourd'hui, c'est parce qu'on a les yeux fermés. Là. Il y a vraiment une urgence climatique. Puis il y a une transition énergétique qui s'est mise en place au Québec. Le gouvernement, en fait, a déployé un plan pour une transition énergétique. Et il y a un volet, c'est sûr qu'on a beaucoup d'électricité ici au Québec, d'hydroélectricité, donc on a déjà une énergie qui est très verte. Mais il y a aussi un pan un pan énergétique, en fait, qui a besoin d'être verdi. Puis on pense au gaz naturel de sources fossiles. Il y a certains équipements, par exemple, certaines industries qui ne peuvent pas s'approvisionner en électricité puis qui ont besoin d'une énergie qui est plus forte. Pas forte, mais qui permet d'alimenter des très gros moteurs que l'électricité n'est pas encore capable de supporter. Puis ce pan d'énergie-là, lui aussi, doit être verdi. Fait qu'il y a une volonté dans cette transition énergétique-là de verdir ce pan-là d'énergie. Oui, on peut faire plein de choses électriques, mais il y a encore des choses qu'on peut pas, qu'il faut verdir, en fait. Fait qu'il y a une volonté gouvernementale, puis si je me rappelle, une mission là, qu'on avait fait il y a plusieurs années pour voir la biométhanisation, qu'est-ce qui se passait dans les pays nordiques, entre autres, la Suède, le Danemark, l'Allemagne. Puis une chose que je me rappelle de cette mission-là, c'est qu'on s'était fait dire, si vous voulez faire bouger les choses, vous ne pourrez jamais le faire s'il n'y a pas une volonté gouvernementale en arrière. Puis là, on a cette volonté-là. Donc, il y a un contexte actuellement. D'un point de vue producteur, ça fait longtemps que les producteurs, moi j'ai accompagné des producteurs il y a une dizaine d'années plus, même 15 peut-être, dans des projets, des volontés de regarder des projets à la ferme. Cette volonté-là, les producteurs, ils l'ont, ils regardent aussi. Eux autres aussi regardent ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Ils regardent ce qui se passe au Vermont, par exemple.
Ou en Ontario.
Donc, même en Ontario, exactement. Puis pourquoi on n'en a pas eu ici? Mais ça ne veut pas dire que les producteurs n'avaient pas démontré de l'intérêt pour la biométhanisation. C'est juste que le contexte économique n'était pas favorable.
Les blocs se mettent en place.
Les choses se sont mises en place, exactement.
Simon, tu voulais ajouter quelque chose?
C'est aussi comme, en fait, c'est un devoir de société, de ne pas laisser passer les choses puis de les gaspiller. Juste dans le sens, comme une philosophie du recyclage, envoyer des matières résiduelles, retourner au champ sans extraire le biométhane, c'est comme jeter du papier puis du verre, du carton. Tu sais, dans le fond, c'est un peu la même affaire. Il y a du biométhane présent dans tous les résidus organiques, que ce soit produit par des humains, des industries ou par des animaux. Cette énergie-là, on la laisse s'évaporer dans l'atmosphère si on ne fait pas un projet de biométhanisation pour la capter. Donc, franchement, je le vois dans un futur assez éloigné que tout va être biométhanisé.
Tout va passer par là.
Oui. Puis en attendant, tu sais, dans mon ère de carrière à moi-même, j'essaie d'en faire quelques-uns parce que ça ne sera pas tout. Et puis, on va commencer par les endroits les plus proches du réseau. Donc, il y a un paquet de contraintes techniques puis de contraintes financières qui vont nous tomber dessus dans cette longue trajectoire-là, mais c'est nécessairement vers là qu'on s'en va, je pense.
Est-ce que pour pousser un peu plus loin dans cette réflexion-là, est-ce que tu penses que les projets de biométhanisation vont éventuellement modifier carrément le paysage agricole québécois?
À chaque fois qu'on va s'implanter quelque part, on va y penser aussi? Ça va faire partie d'un tout?
Ça, c'est une bonne question. Ça dépend beaucoup de la taille des projets. Tu sais, si tu vas, par exemple, il y a des ONG en Afrique qui font des projets de biométhanisation à l'échelle d'une maison. Hein. On capture le biogaz d'une fosse septique pour alimenter la cuisinière de la mère de famille qui fait à manger pour ses cinq enfants-là. Tu sais. Fait que ça, c'est un petit projet de biométhanisation, très, très petit, micro. Et puis, ça a complètement sa pertinence dans des pays émergents. Puis, tu as à l'autre opposé du spectre, tu as des méga-projets à 600-700 000 tonnes. Ceux-là, ben, ils vont devoir s'implanter dans un endroit où ne serait-ce que l'infrastructure routière peut supporter, disons, du camionnage à ce point-là, etc. Fait qu'entre ces deux extrêmes de spectre-là, il y a 25 sortes de nuances. Là, et alors, ici, ce qu'on pense, nous, chez Keridis, c'est que des projets de l'ordre de 50 à 80 000 tonnes sont des projets qui vont ressembler à une laiterie ou à un élévateur à grains ou, par exemple, une meunerie. Ils vont s'imbriquer dans plusieurs régions rurales du Québec assez bien dans le paysage agricole.
Et qu'en est-il de l'acceptabilité sociale quand on vient s'implanter dans une région? On sait que c'est toujours des questions pour les voisins, pour les gens qui entourent des projets comme ceux-là. Comment est-ce qu'on fait pour vendre le projet, si on veut, aux gens autour? Je ne sais pas, José, comment ça s'est passé?
Oui, comme on est passé par là.
Comment ça s'est passé dans votre cas, oui?
En fait, dans notre cas, ça s'est très, très bien passé. Je pense qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont fait qu'on a eu comme une bonne acceptabilité sociale. Premièrement, on a réfléchi ce projet-là en amont. On l'a vraiment réfléchi. On avait un comité. Nous, on est arrivé avec un ébauche de projet. On a mis en place un comité aviseur qui comprenait vraiment un large spectre d'intervenants qui étaient capables de nous donner des pistes ou de regarder un projet d'un œil externe puis de dire « Oh, cet aspect-là, vous devriez l'ajuster, ce volet-là, vous pourriez faire mieux là-dessus. » On avait des gens de la Fédéré, on avait des gens de Recyc Québec, du MAPAC, du ministère de l'Environnement, on avait quelqu'un de l'UPA qui était assis à la table.
Est-ce que les producteurs étaient impliqués aussi à cette étape-là du projet ou c'est venu plus tard?
Oui, on était déjà avec nos producteurs agricoles, on prenait le pouls de nos producteurs, en fait. Puis on a amené le projet plus loin, puis on l'a réfléchi au départ dans une optique de cohabitation sociale. Pour nous autres, c'était super important. Mm-hmm. Moi, j'ai vécu quand même toute la question du BAP sur la production porcine. Je sais qu'est-ce que des odeurs peuvent faire, par exemple, dans un territoire. Je sais les impacts de l'agriculture, qu'est-ce que ça peut soulever comme polémique dans certains cas, dans des régions ou dans un milieu. Fait que pour nous, c'était super important. On s'est aussi adressé à la communauté. On a fait une soirée d'information. Énergir était présent. Le contracteur était présent d'un point de vue impact de construction. Énergir expliquait qu'est-ce que c'est du gaz naturel, comment ça va se produire pour se connecter au réseau, etc. Puis je pense que le fait que les producteurs agricoles, bien, il y a eu une question de taille nécessairement. Là. On arrivait avec un projet où l'impact n'était pas non plus... on arrivait avec peut-être une dizaine de camions par jour. Là, t'sais. On ne parlait pas de centaines. Mm-hmm. Fait qu'on était vraiment dans un quelque chose où, même visuellement, ça s'intégrait dans le territoire. T'sais, ça ressemblait à une ferme, en fait. Puis le fait que les producteurs étaient impliqués dans le projet, parce que la Coop Agri-Énergie Huawei, que le complexe appartient aux producteurs agricoles. Fait que ça a fait aussi que, bien, quand on a eu les soirées d'information, nos producteurs, c'était leur projet. Fait qu'ils étaient là, honnêtement, c'était comme un gros party, là, ce soir-là. C'était vraiment, tout le monde était content. Fait que oui, il y a toujours des enjeux, mais il faut être super alerte aussi, juste en amont, mais aussi à mesure que y a des choses qui arrivent, bien, il faut s'assurer d'être très responsive, mon Dieu.
Bien, proactif.
Proactif, puis répondre à réactif aussi rapidement là, quand il y a des enjeux. Voilà.
Bien, en fait, je suis sûr que tu l'as dit, d'être impliqué avec les agriculteurs qui connaissent tout le monde depuis plusieurs générations dans cette région-là. Puis en plus, souvent, les agriculteurs qui vont être curieux, intéressés, puis qui vont sauter dans cette belle aventure-là, c'est les plus innovants, c'est les plus curieux, c'est les plus progressistes. Fait que, et puis, ils sont soucieux d'un paquet d'affaires scientifiques, modèle, pérennité du modèle d'affaires, relève, y compris bon voisinage. Donc, c'est bien rare qu'on voit les agriculteurs négliger leur relation avec la communauté puis être négligent sur cet aspect-là. J'ai pas souvent vu ça dans ma carrière. Fait que, on est avec, c'est nos meilleurs partners. Puis nous autres aussi chez Kéridis, c'est ça notre modèle. On a des agriculteurs qui ont une partie importante de l'actionnariat de chacun des projets, puis ils débarquent avec nous à l'hôtel de ville. Et on crée un comité de projet avec eux, et puis avec quelqu'un de la ville, quelqu'un du schéma d'aménagement, puis ça se passe vraiment bien grâce à eux. En fait, les problèmes que moi j'ai vécu personnellement, c'est avec une ville. Donc, j'ai une ville où ils ne veulent rien savoir. Là, ils ont peur des odeurs, tout ça. Donc, on essaie de les inviter voir des sites, donc des sites municipaux ici au Québec, chez vous, des sites en Europe. Mais là, en même temps, on leur dit d'aller en Europe. On ne peut pas leur payer un billet d'avion. Ça a l'air tout croche, ça. mais on aimerait ça qu'ils augmentent leur niveau de connaissance du dossier. Parce qu'en réalité, un biométhaniseur, ça ne génère pas d'odeur. C'est tout sous vide. Puis quand la trémie de réception est bien faite, ça ne sent pas plus qu'une petite ferme laitière de taille petite. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment modeste. Puis après ça, tout ce qui sort du biométhaniseur, qui est le Digesta, qui était autrefois déjà épandu dans... cru, entre guillemets, dans la région, sous forme de fumier ou de matière résiduelle, bien là, une fois biométhanisé, digéré, ça casse les odeurs. Donc, on améliore la question des odeurs et la perception sociale. Tu sais, dans un paquet d'autres voisinages de cours de monde qui avaient des épandages de fumier et qui chialaient avec ça depuis 10 ans, bien, ces gens-là vont être satisfaits de l'arrivée d'un projet de biométhanisation dans leur région parce que ça va avoir vraiment, vraiment calmé le niveau d'odeur de ce qui sort de là.
Une question de compréhension et de savoir, d'information.
Mais ça, on le voit, excuse-moi, c'est un point super important parce qu'effectivement, le procédé de biométhanisation ne désodorise pas la matière, mais elle enlève la plus grande charge des odeurs. Puis c'est super important ce que tu dis, Simon, parce que quand les producteurs épandent, bien, nous, on a fait le tour, là. Fait que les producteurs, ils ont fait l'exercice, ils l'ont épandu eux-mêmes, ils l'ont senti eux-mêmes, puis les voisins aussi l'ont senti ou ils l'ont moins senti, en fait. Fait qu'on dit, en gros, là, que ça sent, ce qu'on s'est fait dire par des experts senteurs de... Non, mais ils nous disent que ça semble... C'est comme si c'était de la terre noire liquide, un peu, l'odeur. Ouais. Ça sent quand même un petit quelque chose. Mais ça sent beaucoup moins, puis ça dure beaucoup moins longtemps. Fait qu'après 2-3 heures, l'épandage, ça sent plus. Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage d'un point de vue communautaire, là. Puis, cohabitation.
Raphaël, j'aurais peut-être une petite question par rapport au modèle d'un point de vue économique pour le producteur. Il envoie du fumier, il reçoit du Digesta. Ultimement, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a une rémunération pour ça? Comment ça fonctionne exactement?
Ouais. Ça va dépendre des modèles. Puis encore une fois, là, je ne suis peut-être pas la meilleure personne, mais ça va dépendre des modèles. Il y a plusieurs modèles qui sont possibles pour les projets de biométhanisation. José en a parlé. Il y a des projets, il y a des modèles plus coop, il y a des modèles qui sont plus privés, que le promoteur de projet va aller chercher les fumiers. Mais dans tous les cas, il y a toujours une redevance à tout le moins qui est ramenée vers les producteurs. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Puis nous, quand on a des discussions avec les différents promoteurs de projets, ben on s'assure aussi, on signe des contrats à très long terme avec ces promoteurs de projets-là. On signe des contrats de 20 ans. Donc, on veut s'assurer que les projets vont être rentables et qu'ils vont rapporter aux parties prenantes du projet. Puis, on veut que ça soit... Donc, quand on fait la vérification des projets, bien, on s'assure là, justement qu'il y a des redevances qui sont faites aux promoteurs parce que cette façon-là... pas aux promoteurs, aux producteurs, parce que de cette façon-là, on s'assure que le projet va être viable à long terme. Puis, on s'assure que les intrants vont venir sur la durée du projet, c'est-à-dire sur 20 ans. Mm-hmm. Puis, s'il n'y a pas de participation des producteurs agricoles, puis si les producteurs agricoles ont seulement des contrats d'approvisionnement de la matière pour un an, 2 ans, bien, on ne peut pas s'assurer, nous, que ces volumes-là vont être là sur la durée de notre contrat qui sont de 20 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde, effectivement, avec beaucoup d'attention. Après ça, il y a plusieurs modèles, c'est ça. Puis, tu sais, les deux panélistes ici sont beaucoup mieux placés que moi pour le dire parce que, tu sais, moi, mon équipe, on n'investit pas dans les projets. On s'assure de négocier les contrats d'approvisionnement, puis on est ouvert à l'ensemble des modèles qui sont disponibles, mais il faut s'assurer que le projet va être rentable, viable, puis qui va nous fournir le gaz à long terme.
Sur 20 ans.
Sur la durée du contrat, effectivement.
Simon?
Oui. Mon petit côté désagréable, il y aurait le goût de te dire si je vendais mon GNR vraiment plus cher, je serais même capable d'acheter le fumier aux agriculteurs, mais c'est pas le cas. En gros, là, je vais te dire dans nos modèles d'affaires aujourd'hui comment ça fonctionne. On veut représenter pas de coûts supplémentaires pour l'agriculteur. Fait que, par exemple, le fumier, on va le chercher chez lui. On lui ramène le digestat. On ne veut pas lui engendrer de coûts supplémentaires, de taponnage supplémentaire, de tracas supplémentaires. Puis là, il y en a du taponnage des coûts puis du tracas. Ça, c'est la gestion du projet qu'il fait. Et par contre, une affaire qu'on n'a pas discutée, c'est qu'il y a une opportunité d'affaires. Bien, les agriculteurs, nous autres partners, ils vont se faire donner des ristournes sur la vente de l'énergie qu'on va finir par conclure à un excellent prix chez toi. Mais par contre, j'ai des opportunités d'affaires pour eux aussi en termes de culture. Parce que là, les coproduits comme les cannes de maïs, les pailles, des batchs d'ensilage impropres à la consommation animale, toutes ces affaires-là, ça fit super bien dans un biométhaniseur. Également, là, je commence à étudier avec ma gang d'agronomes chez Viridis puis des firmes externes tout le plan de régie des cultures d'un agriculteur qui veut être partenaire d'un projet de biométhanisation pour essayer d'implanter des cultures de rotation alternatives qu'on peut récolter en partie puis qui vont améliorer la qualité de la structure du sol avec les racines, mais pour lequel je vais payer l'agriculteur pour récolter la partie verte en haut et mettre ça dans le biométhaniseur parce que là-dedans, il y a bien du gaz.
Ouais.
Donc, on a des opportunités supplémentaires pour les agriculteurs. Pour dire exemple, un agriculteur qui a des rotations puis qui fait des prairies une fois de temps en temps ou qui laisse des engrais verts au sol une fois de temps en temps, mais il le fait pas assez souvent parce que c'est tout de sa poche puis il sacrifie une année de maïs. Bien, moi, je veux trouver de quoi le payer pour améliorer son agro-environnement et que le projet de biogaz le paye parce que je vais avoir réussi à vendre à produire du gaz avec ça.
Quels seraient les avantages? Bon, on parle de projet agricole ici. Quels seraient les avantages d'un projet agricole versus un projet plus urbain? On entend quand même parler de projets aussi urbains de biométhanisation au niveau des villes. Est-ce que vous avez besoin d'intrants supplémentaires qui proviennent des villes ou est-ce que l'intrant agricole est assez pour...
Bien, moi, j'ai quelque chose à dire pour ça, tu sais, comme entrepreneur. C'est bien, les projets urbains, parce que ça améliore le bilan environnemental de la ville, c'est super, quand c'est pour gérer les résidus de la ville. Donc là, on parle de le bac brun, les boues municipales, pas de troubles. Quand les villes font des designs où est-ce qu'ils commencent à accepter tous les résidus agroalimentaires dans leur système? Au début, c'est correct. C'est juste que ça nuit à la filière agricole qui veut faire 100 projets au Québec pour faire bénéficier les agriculteurs, pour faire embarquer les agriculteurs dans le beau défi de la biométhanisation. Bien, ces agriculteurs-là, ils n'arrivent pas à rentabiliser le projet avec juste du fumier puis du lisier. Ils ont besoin des résidus de la laiterie, ils ont besoin des résidus de l'usine de yogourt, ils ont besoin des résidus de l'abattoir, etc., pour générer assez de gaz, puis aussi des revenus. Fait que quand ils se sont fait prendre ça par un projet municipal, c'est frustrant, là. Donc, en fait, c'est une question de société. Est-ce que la société du Québec veut faire des gros projets municipaux qui vont faire plein de bonnes actions? Je ne les critique pas. Ou est-ce que la société québécoise veut aussi répartir les producteurs de gaz et puis offrir aux agriculteurs d'embarquer dans cette belle aventure-là?
Je peux peut-être ajouter aussi une autre chose, puis plus au niveau technique, là, qu'est-ce que ça représente comme différence, là? Un projet agricole versus un projet urbain. Un projet urbain, tu vas traiter le bac brun. Donc, tu dois traiter de la matière qui n'est pas uniforme, qui va changer, qui est contaminée, qui va avoir du métal, qui va avoir du plastique, que
c'est
tu dois te débarrasser.
C'est dur à faire.
Puis, c'est des projets complexes au niveau technique. C'est très compliqué. Si tu le compares à un projet agricole, bien, le projet agricole, c'est de la matière qui est constante, qui est uniforme, qui est... C'est ça. Donc, tu sais, une différence majeure, là, c'est ça. Puis, les projets municipaux, bien, le principal objectif, c'est de réduire l'enfouissement de la matière. Donc, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de matière qui se retrouve au site d'enfouissement puis qui génère du biogaz puis du méthane qui est envoyé à l'atmosphère. Donc, c'est ça l'objectif qui doit être considéré dans la définition de ces projets-là. Puis, tu sais, on parle beaucoup de projets municipaux. Là. Il y a eu beaucoup de mauvaise presse là, parce que c'était des gros projets. Mais ces gros projets-là, ils ont coûté cher parce qu'on a fait un choix de société, justement, pour diverger le plus possible de matière des sites d'enfouissement, mais aussi on a fait un choix de société que cette matière-là, ben, on devait la traiter. Puis ça fait en sorte que ben, c'est des coûts qui sont quand même élevés parce que justement, il faut faire le pré-traitement. Puis, mais dans des projets agricoles, il n'y aura pas tous ces pré-traitements-là qui vont devoir être faits. Il y a de la matière uniforme. Donc, c'est beaucoup plus simple de traiter cette matière-là. Puis il y a beaucoup plus de potentiel aussi, là, cette matière-là. Ben, c'est ça, il y en a beaucoup plus.
Si je peux oui. rajouter, parce qu'il y a quand même beaucoup de co-bénéfices à faire des projets agricoles. Oui. Parce que le volet biométhanisation comme tel, puis sur ce volet-là, juste le fait, tu sais, quand on réduit les coop carbone, en fait, et dans les projets, parce qu'on parle de réduction des gaz à effet de serre. Sinon, coop carbone ne serait pas là, c'est sa mission principale. Coop Carbone a développé le projet, travaille sur la construction et opère le site pendant 20 ans. Fait que nous, le volet réduction des gaz à effet de serre est super important. Une des particularités des projets agricoles aussi, c'est qu'il y a une partie de la réduction des gaz à effet de serre qu'on va attribuer à la substitution du gaz naturel par du gaz naturel de source renouvelable. Fait que ça, c'est un volet de réduction. Mais il y a un autre volet qui est super important, qui actuellement n'est pas capturé de façon globale, c'est le méthane qui émane en fait des fosses, des structures d'entreposage des producteurs agricoles. Mmh. Fait que ça, c'est le deuxième plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre après le roux des vaches sur l'ensemble de la filière laitière. Si on prend toute la filière laitière, là, c'est le deuxième plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. Puis là, on vient capturer ce méthane-là.
Parce que le fumier est ramassé au fur et à mesure. Là. Il y a
exactement.
Pas d'entreposage.
Exactement. On le prend de la préfosse. Fait que le lisier est frais. Ouais. On va aller capturer le méthane. On va en produire du. Puis quand une fois qu'il est brûlé, bien, comme du méthane, comme du gaz naturel, va être transformé en CO2 en brûlant. Mais en plus, ce méthane-là, il est déjà biogénique. Tu sais, le carbone qu'on utilise, il vient déjà des plantes. C'est pour ça aussi qu'on va aller chercher une plus grande plus-value. Puis après ça, bien, on a parlé des odeurs. Je pense que ça aussi, c'est un avantage des projets agricoles. Un avantage important d'impliquer les producteurs agricoles, c'est que les projets de ville, par exemple, tout ce qu'on va ressortir de là, de toute façon, retourne chez l'agriculteur. Fait que d'impliquer les producteurs dans les projets, bien, fait qu'on leur donne une plus-value aux principaux récipients, dans le fond, de ces matières-là. Fait qu'on assure aussi... Quand ils sont impliqués dans les projets, on assure aussi qu'on va aller chercher une qualité supplémentaire sur les matières qui rentrent. Parce que nous, là, chez nous, nos producteurs sont impliqués. On a une matière, OK, est-ce qu'on la prend, cette matière-là? On ne la prend pas. Ça va être quoi l'impact sur l'épandage? Fait que, tu sais, moi, nous autres, là, des morceaux de plastique, on n'en prend pas, là. Mm-hmm. On s'assure aussi que quand les producteurs sont impliqués, on s'assure que... La valeur fertilisante du digesta, qui est complètement dépendante des intrants qu'on va ajouter, mais sont en lien aussi avec la réalité régionale puis le contexte agricole dans lequel ce projet-là s'insère. Okay. Fait que ça amène une cohérence aussi dans le contexte agricole.
Fait que pour l'agriculteur, il y a carrément une plus-value aussi au niveau de ce qui revient.
Exact. Fait que dans notre cas, le producteur va bénéficier aussi de la vente, va avoir un retour sur la vente de GNR chez Énergir. Okay. Fait qu'il participe aussi à ça. Fait qu'on amène des revenus supplémentaires dans l'agriculture. Fait que d'un point de vue de société également, on peut dire qu'on amène de l'argent neuf en agriculture. Puis croyez-moi, c'est quand même assez rare parce que des projets, on a déjà vu, mais que d'amener de l'argent neuf en agriculture, hors agriculture, dans l'agriculture, bien, ça permet de diversifier aussi les revenus des producteurs agricoles. On assure une meilleure pérennité. Des producteurs agricoles, des producteurs laitiers qui ont... il y a des quotas, on est chanceux au Québec, mais à chaque fois, on a toujours un épée de Damoclès là-dessus. Fait que d'amener des revenus supplémentaires hors agriculture, ça amène aussi une forme de pérennité là, pour le secteur agricole, qui est notre secteur primaire quand même.
Comment est-ce qu'on établit l'emplacement pour un projet? Est-ce qu'il y a des clés qui sont idéales pour... implanter un projet en quelque part?
Bien, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'étais sûr que c'était pas important parce que, je sais pas, je suis niaiseux. Tout où sont les gisements? On est avec la coop fédérée, on a tous les tonnages de fumier. Là, oublie ça, l'emplacement. Il y a de l'espace ici, on est au Québec. Puis mon partenaire français disait, non, là, ça commence avec le terrain. Trouve-toi un terrain, puis après, tu me dérangeras au téléphone. Donc, je ne le croyais pas au début, puis finalement, il avait complètement raison. Ça prend un terrain qui est collé sur le réseau, Puis là, là, c'est compliqué ici, là. Qui est à 500 mètres des maisons, parce que le ministère de l'Environnement ne te laissera pas construire une usine de biométhanisation si tu es trop collé à ces maisons. Il faut que tu aies le bon zonage, le bon schéma d'aménagement. Si tu es en zone verte, il faut que tu deals avec la CPTAQ en plus avant de dealer avec le ministère de l'Environnement. Donc, tu te rajoutes 6 mois, 1 an. Après ça, tu sais, donc, et ça prend un endroit où le camionnage peut gérer, tu sais, l'endroit peut gérer le trafic routier. Surtout si c'est un méga projet à 125 camions par jour. Ça, ça prend une bretelle d'autoroute, j'imagine. Puis après ça, tu sais, ça prend des... ça fait que les critères de sélection du terrain sont étonnamment compliqués à rencontrer.
Proximité des rivières, des cours d'eau.
Oui, oui. Ben, tu peux en rajouter plein. Donc, finalement, quand tu regardes tous ces filtres-là puis la carte du Québec, il ne reste pas grand spot. Ou ça va prendre de Énergir qui développe une flotte de camions-citernes comme il y avait dans le temps avec la Socquip. Puis, le camion citerne qui va venir chercher le GNR compressé sur des projets agricoles qui vont être plus remote, là, plus loin. Okay. Tu sais, comme moi, j'ai du monde dans le nord du lac Saint-Jean, ils veulent faire un projet, mais ils sont tellement loin du réseau, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Pourtant, là, il y a des patates, il y a du fumier de vache, il y a tout ce qu'il faut pour faire un beau projet, mais il n'y a pas de réseau. Fait qu'ici, c'est une réalité, là, la proximité au réseau là, qui est comme vraiment deal-breaker.
Mais est-ce qu'il y a la possibilité dans des projets comme ça, par exemple, de réutiliser carrément l'énergie qui est créée sur place?
Ou, ben, c'est parce qu'on n'aurait pas le prix. Tu sais, il y a des places qui marchent de même, mais c'est parce qu'on ne peut pas trader. Tu sais, nous autres, on a besoin de vendre notre énergie 3, 4, 5 fois plus cher que le gaz qui est livré normalement. Mm-hmm.
Puis pas juste ça, tu sais, un projet de biométhanisation, l'énergie, elle va être produite de façon constante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peu importe la saison, peu importe. Donc, la consommation puis tes besoins énergétiques ne sera pas suffisante. De façon générale, là, elle est rarement suffisante pour consommer l'ensemble de ta production de biogaz parce qu'en hiver, tu vas avoir une grosse demande, en été, tu n'auras pas besoin, pantoute. Puis, ça se stocke pas. En fait, c'est très complexe à stocker. Là, tu peux le stocker de quelques heures, là, mais sinon, si tu augmentes, si tu parles de journée de production, bien là, ça coûte cher. Mais pour revenir à ce que tu disais, Simon, effectivement, la proximité au réseau, c'est primordial. Ça permet de réduire les coûts considérablement. On regarde en ce moment là, des solutions pour pouvoir justement amener le gaz vers le réseau par camion en compressant le gaz et donc stockant le gaz là, plusieurs mètres cubes de GNR pour l'amener ensuite vers le réseau. Donc, on regarde cette option-là. Il y a, entre autres, là, une station là, qu'on s'apprête à construire là, sous peu qui pourra permettre là, d'amener le gaz là, vers un point central. Mais tu sais, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus justement de solutions comme ça pour amener le gaz vers le réseau qui va être développé pour justement tu sais, qu'on puisse aller chercher l'ensemble des ressources qui sont disponibles puis qu'on ne dépende pas nécessairement du réseau qui est à proximité parce qu'à un moment donné, le réseau, on ne veut pas le prolonger indéfiniment non plus. Voilà.
Oui, parce que c'est une autre chose qu'on demande, nous, les promoteurs de projets de GNR, c'est de mutualiser les coûts de connexion. Tu sais, comme par exemple, quand les agriculteurs installent des éoliennes dans leur champ, c'est Hydro-Québec qui va connecter l'éolienne au réseau électrique, tandis que les producteurs de GNR doivent payer eux-mêmes le tuyau qui se rend jusqu'au réseau d'Énergir, ce qui coûte plusieurs millions. Donc, c'est sûr que bon, c'est tout encadré avec la régie et tout ça, mais en réalité, ça aiderait vraiment beaucoup la filière si le coût de connectivité ne dépendait pas du producteur, parce que là, on pourrait regarder sans le filtre de ce filtre-là, qui est le filtre le plus important là, de proximité au réseau.
Excellent. Bien, écoutez, le temps file. J'ai d'autres questions pour vous, mais je pense que c'est toujours plus intéressant si jamais il y a des gens dans la salle qui ont des questions. À poser. C'est juste prendre le micro, s'il vous plaît. Ce serait très apprécié.
Salut, je m'appelle Émilie Sonnequin. Je travaille chez Logiag. Je suis ingénieure et journaliste scientifique. Première question. Si je comprends bien, vous allez brûler du gaz pour faire du gaz avec vos camions qui vont aller chercher du gaz? C'est
une très bonne question. Là, je ne sais pas par quel bout prendre la question. Mais on ne brûle pas du gaz pour produire du gaz. La biométhanisation, là, comme Simon le disait, c'est un procédé naturel. C'est de la décomposition, c'est des micro-organismes qui produisent le biogaz, qui dégradent la matière pour, de façon naturelle. Là, tu laisses une pomme là, par terre, il y a des micro-organismes qui vont la dégrader, qui vont la manger, puis qui vont produire du gaz. Donc, naturellement, ça se produit. Puis on va produire du gaz, donc du biogaz qui, au lieu d'être envoyé à l'atmosphère, on va le récupérer, on va l'injecter dans le réseau pour diminuer la quantité de gaz qu'on aura à importer, justement, qui provient de l'Ouest canadien ou qui provient du gaz de schiste, pour le remplacer par du gaz qui est produit ici au Québec, qui est produit par des matières organiques ici, puis qu'on va réduire nos importations puis notre dépendance aux énergies importées.
OK. Merci, je comprends, mais c'est sûr que ça serait intéressant de faire une analyse plus complète.
Mais il y a des analyses. C'est une excellente question que vous posez là, complexe, dans laquelle il n'y a pas une réponse. Il y a comme 200 000 réponses possibles. Puis on fait des analyses de cycle de vie, mais on fait aussi une analyse de poids carbone aussi, du projet. Et donc, évidemment, il y a plein d'indicateurs qu'on peut twister pour arriver à un meilleur bilan énergétique possible. C'est ça le but, OK? Je t'en donne quelques-uns. Le biométhaniseur, il faut le chauffer, hein, parce que si on est au Québec, il fait froid, là, tout ça, il faut que l'estomac soit une température du corps, on va dire ça de même. Et donc, on peut chauffer avec de l'hydroélectricité, déjà là, au lieu de brûler des énergies fossiles pour le chauffer, façon facile. L'autre façon que nous, on remarque dans nos modèles d'affaires, c'est dès qu'on a parcouru plus que 8, 9, 10 kilomètres avec le fumier, là, on commence à trouver que ça fait beaucoup de diesel brûlé pour aller faire du GNR. On est moins à l'aise avec ça. Puis financièrement aussi, c'est plus difficile à justifier parce que les coûts de transport, à un moment donné, sont tels qu'il faut vraiment trouver des projets où il y a une proximité des matières. Je te donne deux exemples qui me sautent aux yeux. Mais là, ici, j'ai trois ingénieurs dans la salle qui sont 100 fois plus compétents que moi pour répondre à des questions de bilan. Mais il faut absolument faire le bilan puis éviter de tomber dans une perception de faire pousser du maïs pour faire un carburant qui consommait, dans le fond, plus de carburant.
Ouais,
c'est pas là qu'on veut s'en aller.
Nous, on a fait l'exercice, juste pour répondre à ta question, on l'a fait cet exercice-là, le bilan, parce que, comme je disais, Coop Carbone, c'est sa mission de réduire les gaz à effet de serre. Fait que si le projet en lui-même ne réduisait pas les gaz à effet de serre, je serais pas ici pour en parler parce qu'on l'aurait pas fait. On a fait l'évaluation au début, on a réévalué aussi en cours de route. Puis, en fait, le projet en lui-même, incluant le transport pour amener le lisier fumier puis le rapporter, on réduit les gaz à effet de serre de l'ordre de 4300 tonnes annuellement, donc pour l'ensemble du projet.
Puis, au niveau du cycle de vie, là, les projets agricoles, si tu compares avec d'autres projets, si tu prends les projets agricoles, on parle souvent de projets qui sont carbonégatifs. Là, on parle même pas de carboneutralité. On parle de carbonégativité.
Moins 100, justement, moins 200 dans ces ordres-là.
Justement, à cause de ce que José disait avec la gestion des fosses qui fait en sorte qu'il n'y a plus de méthane qui est envoyé à l'atmosphère, mais qui est plutôt récupéré.
Ouais. OK, merci. Mais j'ai une deuxième question, à moins que quelqu'un... Non, c'est bon. OK. Supposons que dans 5 ans, le marché du carbone en agriculture prend de l'ampleur. Mm-hmm. Et là, les agriculteurs vont avoir le choix soit d'utiliser leur fumier pour le mettre dans leur sol, pour augmenter la matière organique du sol, puis avoir des revenus avec ça, avec le marché du carbone, ou vous le vendre à vous pour faire du gaz. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette possibilité-là? Puis qu'est-ce qui va se passer dans ces...
Bien, déjà... La matière organique et le carbone, là, il n'est pas envoyé totalement en gaz. Il y a seulement une portion de la matière organique qui est envoyée dans le digesteur qui est utilisée, qui va se dégrader puis qui va devenir du biogaz. Donc, c'est seulement une portion du carbone qui est utilisée puis qui est envoyée, qui est transformée en gaz. Là, je n'ai pas les proportions exactes, là, mais je pense que... Anyway. Puis l'autre chose, c'est que oui, il y a un marché du carbone qui se développe, mais... Énergir, justement, on est la valeur qu'on donne à ce gaz-là, bien, correspond à la valeur du marché, puis fait en sorte que, bien, le producteur pourra avoir le choix. Là. Il pourrait décider, je vais aller sur le marché volontaire, je vais séquestrer du carbone dans mon sol, je vais générer des crédits de carbone à partir de ça, puis je vais aller chercher une valeur sur le marché, ou je vais regarder les bénéfices économiques que ça représente, puis je vais le vendre à Énergir, puis je vais... Après ça, ça va être un choix économique qui va devoir être fait par les producteurs agricoles, puis ils vont dire, bien, où est-ce que je peux recueillir la meilleure valeur en termes économique. Puis nous, il n'y a pas de problème.
Je pense que tu peux rajouter aussi une autre couche au niveau économique, le fait que les producteurs amènent leur... En fait, ils reprennent leur lisier avec tout... Simon l'a dit, avec tout le NPK qui était présent dans... Puis encore du carbone. Okay? Il y a du carbone structurant qui reste dans le procédé. Mais quand tu ramènes ton NPK... Puis là, ça dépend des intrants que tu choisis, mais dans notre cas, à Warwick, le NPK est plus grand. Les producteurs, ce qu'ils reçoivent, ils ont du NPK. En fait, la matière est plus riche en termes de valeur fertilisante que qu'est-ce qu'ils avaient au départ. Puis en plus, on peut dire que même si c'était égal, même si c'était la même valeur... Le coefficient d'efficacité, ça s'approche plus d'un engrais minéral que d'un lisier. Fait que ce que ça fait, en fait, nos producteurs agricoles cette année, on va le dire, c'était très, 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 très content parce que vous avez vu les prix très, très, très élevés des engrais minéraux. Fait que toute la substitution qu'ils ont pu faire cette année, nos producteurs étaient vraiment contents. Fait que ça aussi, ça rentre dans l'équation. Puis je pense que d'un point de vue général sur la biométhanisation, il ne faut pas faire ça avec des œillères. Il faut voir l'ensemble des co-bénéfices que ça apporte. Puis actuellement, en tout cas, nos producteurs sont contents juste par le NPK qu'ils ont reçu de plus avec leur lisier. Fait que d'un côté, tu prends l'énergie, mais tu conserves ta valeur fertilisante. Alors, tu es très content.
C'est plate de faire un panel avec toi parce que tu réponds toujours ce que je voulais dire. Mais en fait, retour du digesta au sol, le carbone, c'est le carbone humifié, il retourne au sol. Le carbone que tu ramènes au sol, qui est facilement digestible, la bactérie le transforme en CO2 dans quelques jours. Fait que, tu sais, c'est complexe comme question. Puis vous aviez un très bon article dans l'Agro-Nouvelle cette semaine là-dessus, des opportunités que Logiag sont en train de quantifier dans ce domaine d'affaires-là du futur. J'ai trouvé full intéressante. Mais la biométhanisation, dans une dernière étude ACV faite par l'INRA en France, on vient me voir au kiosque de Solio, je vais vous donner la référence, et quelque part dans ma valise, l'étude détaille tout l'aspect carboneutralité de l'opération puis le retour au sol du carbone. En général, les agriculteurs qui participent à des projets de biométhanisation en France disent qu'ils achètent 20 % à 30 % moins d'engrais minéraux. Ça aussi, c'est à tenir en compte, parce que l'efficacité de l'engrais est augmentée. Et les périodes d'épandage sont les plus propices.
Merci.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Oui.
Alors, tantôt, vous avez parlé de la biomètre dans les municipalités. Je comprenais que ça restait un défi pour le plan d'affaires ou le développement futur. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait mettre en péril de futurs projets si l'industrie agroalimentaire continue de travailler seulement avec les villes? Puis, veut pas, il y a quand même beaucoup d'argent qui a déjà été investi de la part des gouvernements dans les projets municipaux. Donc, il y a comme... Puis, j'imagine que pour vos projets, ça va prendre aussi de l'argent qui va provenir des sources gouvernementales. Ouais. Donc là, elle est où la solution? Pose la question.
Bien, c'est une super bonne question. Puis, tu sais, moi, je ne peux pas parler pour les autres. Personnellement, moi, je suis un entrepreneur en environnement. J'en bénéficie des projets municipaux. Je suis payé pour gérer du digesta de ville. Donc, je ne suis pas contre ça, évidemment. Ce qu'on pense, par exemple, si on veut emmener la biométhanisation sur les fermes du Québec, il faut faire attention que les projets municipaux restent municipaux. Bac brun, beau municipal, OK, ça c'est leur substance, c'est sur le compte de taxes, c'est eux qui gèrent ça, qui le biométhanisent avant de l'envoyer dans un champ, c'est extraordinaire, on est bien pour ça. Puis l'argent investi par l'État valait chaque pièce qui a été mise là-dedans, aucun trouble avec ça. C'est là où c'est quand c'est over-designé, puis que là, on prend toutes les usines agroalimentaires de la région, c'est plus problématique parce que ça va ralentir l'arrivée des opportunités pour les agriculteurs qui ont besoin de ces matières-là avec le gaz qu'il y a dedans pour réaliser leur projet agricole. C'est juste ça que je dis. Fait qu'après, c'est de trouver une manière de cohabiter. Et puis, en fait, c'est aucunement une critique pour les agroalimentaires. L'usine agroalimentaire, elle veut gérer son résidu le moins cher possible. C'est parfaitement respectable. Fait que c'est sûr et certain que si ça fait une interférence dans un marché normal, ça. Puis les projets municipaux n'ont pas le droit de prendre du fumier lisier par règlement. Alors, tu sais, puis pour vous donner une perspective, je ne sais pas si vous savez ces chiffres-là, mais au Québec, là, il y a 35 millions de tonnes de fumier lisier par année. Il y a 1 million de tonnes de baux municipaux. Fait que, tu sais, nous, les humains, on fait moins de stock qu'un animal, mais on est plus petit. Et il y a également 1 million de tonnes de résidus organiques, à peu près 2 millions de tonnes de bac brun. Puis il y a un autre 2 millions de tonnes de résidus agroalimentaires. Ça fait qu'en tout, c'est 4-5 millions de tonnes de matières organiques qui proviennent de toutes les usines du Québec, toutes les agroalimentaires, toutes les villes, tous les citoyens, versus 35 millions de tonnes de fumier lisier. Fait que tu vois, là, c'est là qu'est le gros gisement. Il faut aider les agriculteurs à passer ces 35 millions-là, dans une vision utopiste, okay, à travers une extraction du biogaz. Puis il faut vraiment tout leur donner l'environnement d'affaires qu'ils ont besoin pour qu'on puisse faire ce virage-là.
Mais tu sais, Simon aussi, tu as parlé de toutes les autres initiatives, culture intercalaire, oui, ou des trucs comme ça aussi qui pourraient bénéficier là, au modèle d'affaires de...
Tout à fait.
Parce qu'il faut savoir, en fait, là, juste, on ne l'a pas nommé tantôt, mais le lisier puis le fumier, il a déjà été en partie digéré. Hein, on s'entend, ouais, il a passé déjà à travers un estomac. Fait que là, on le fait passer à travers un deuxième estomac.
Ouais.
Et ce que ça fait, c'est que la valeur, le potentiel méthanogène, donc pour chaque tonne qu'on rentre de lisier versus une autre matière qui n'a pas encore été digérée, donc on parle de la même chose que qu'est-ce qu'on mange pour avoir de l'énergie, tout, ouais, ce qui est protéines, sucre, gras. Bien, ces résidus-là, mettons, de transformation, qui ont du sucre dedans, bien, ils ont le potentiel de produire beaucoup plus de gaz, oui, que du lisier. Le lisier apporte plein d'avantages dans un projet, dont la stabilité du procédé, etc. Ça amène plein de choses. Mais effectivement, ce qu'on regarde pour être moins dépendant de ces matières-là, c'est d'augmenter le pourcentage d'agricole dans les projets le plus possible. T'sais, nous, à Warwick, on est à 50 % de lisier. Mais on regarde des projets où on va amener encore ça plus élevé pour être moins dépendant de des matières qui va avoir plus de gens vont regarder, en fait. Mm-hmm. Puis on l'a dit, c'est un choix de société qui a été fait à un moment donné avec le PTMOBC pour réduire l'enfouissement, le programme pour qui est pour les municipalités, là, pour les projets. Ils vont chercher quand même des gros pourcentages. Ça a été un choix de société à ce moment-là, mais je pense que le gouvernement commence à regarder de plus en plus l'implication agricole. Je pense à la France, je pense que c'est 80 % des projets qui sont des projets agricoles. C'est un choix différent qui a été fait. Nous, on promouvoit beaucoup ce genre de projet-là, puis quand on parle au gouvernement, c'est aussi dans cette voie-là qu'on dit que le développement de la biométhanisation au Québec devrait se faire principalement au niveau agricole parce que ça vient, il y a un gros potentiel, premièrement, mais deuxièmement, c'est retourner à la terre. Fait autant impliquer les premiers récipiendaires de ça, en fait.
Mais merci pour les explications. Puis je suis très pour cette vertu-là. On pourrait être dans le développement agricole agroalimentaire, mais je me pose quand même la question, si on prend l'exemple de la grande région de Saint-Hyacinthe, si on prend l'exemple de l'usine de biomètre, que le modèle d'affaires de l'usine a été justement construit sur justement le résidu agroalimentaire. Ça veut dire que pour vous, si vous voulez développer dans la grande région de Saint-Hyacinthe, ça vous cause quand même un problème.
C'est sûr que c'est moins facile que si on s'en va dans une région vierge.
Bien, c'est ça, tout à fait.
Ouais.
Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci à vous trois. Pardon.
On voit aujourd'hui en Europe, on a énormément, particulièrement en France, on a énormément de travers au travers de toute la méthanisation, où en fait on va avoir des méthaniseurs qui vont se monter justement pour utiliser le lisier, etc., etc. Et puis finalement, on se retrouve, on a des agriculteurs qui sont quelque part engagés à leur production de gaz, etc. Et on se retrouve à faire des cultures de maïs et des cultures de grains uniquement pour mettre dans la méthanisation. Comment vous pensez que ça peut se gérer, ça? Est-ce qu'aujourd'hui, le lisier est capable de me sortir suffisamment de méthanisation? Ou alors, on va être obligé de rentrer dans un travers comme celui-là. Ou alors, autre question, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'on est capable de rentrer dans un micro, dans une notion de micro-méthanisation sans rentrer dans des machines à gaz, comme on dit à Saint-Hyacinthe, d'accord, pour pouvoir justement permettre aux agriculteurs d'arriver à avoir une autonomie et peut-être éventuellement un gain, une production, quelque chose comme ça?
Je vais prendre votre première question. C'est sur l'agriculture énergétique, puis c'est une bonne question. Par exemple, le modèle allemand, l'Allemagne était tellement en déficit d'avoir de l'électricité, du gaz, ou entre le choix de l'acheter à Vladimir Poutine ou de faire pousser du maïs, ils ont choisi de faire du maïs. On ne peut pas vraiment les critiquer de ça. D'un autre côté, c'est sûr et certain que ce n'est pas l'objectif du Québec de faire pousser de l'ensilage de maïs, du maïs, pour décoller une filière de production de gaz, puisque ça ne serait pas environnementalement, puis je dirais au niveau de la perception sociale, ça ne serait pas quelque chose qui est souhaitable pour la filière. Donc, on cherche à trouver... Donc, dans votre question, il y avait une partie de la question, ça disait, y a-t-il assez de gaz dans le fumier lisier? Moi, je vous donner ma réponse personnelle. Je pense que non. Il n'y a pas assez de gaz dans le fumier lisier. Fait que ça prend des coproduits pour aller avec ça. Mais il y a une toute sorte de façon de ramasser des coproduits qu'on laissait au sol autrement puis qu'on ramène sous forme de digesta qui n'étaient pas valorisés. Je pense à des cannes de maïs, par exemple, qui sont récoltées en même temps que le grain, ou je pense à des pailles non valorisées, ou je pense même surtout à des cultures de rotation que les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas les moyens de faire parce que ça ne les rémunère pas, mais qu'on pourrait se mettre à rémunérer pour échanger la récolte de la partie aérienne de ça, mais laisser au sol la partie...
Parle de culture intercalaire ou d'engrais
vert. Engrais vert, culture intercalaire, mais engrais vert récolté et aussi valorisation des terres pauvres, des terres marginales, les embouts de champs. Puis même à ça, j'ai trouvé Cyril Néron à Solio, il disait l'agriculture en bord de fossé avec des plantes pérennes, de récolter des saules, récolter des vivaces. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de déclinaisons qu'on va utiliser pour se rendre à un modèle d'affaires rentable, mais ça ne sera pas faire de l'ensilage de maïs, tu sais, ça ne va pas être ça.
Dans le cas de la coop Agri-Énergie, nous, on a fait une espèce de pacte moral avec nos agriculteurs. Ça a été un peu notre boussole en départ parce qu'on a signé une entente long terme avec la coop Agri-Énergie ou les producteurs. Puis ça faisait partie de cette boussole-là qu'on s'est donnée, mm-hmm. de dire qu'on utilisait, on ne faisait pas d'interférence, en fait, avec les cultures, avec les terres, pour l'utilisation des terres pour pas de compétition sur l'agriculture, sur l'alimentation humaine ou animale. Fait que ça a été, nous, c'est un choix qu'on a fait parce qu'effectivement, on a vu, moi j'ai vu la même chose là, en Allemagne. Mm-hmm. Il y avait certains pays même qui ont arrêté les subventions à la biométhanisation parce qu'il y avait trop d'utilisation de terre pour ça. Donc, nous, c'est un choix qu'on a fait. On pense qu'on ne devrait pas aller vers cet alignement-là. Puis j'imagine que si ça s'en irait vers là, je pense qu'il y aurait probablement des conditions qui viendraient avec des subventions, par exemple, pour ne pas que ça soit fait. Fait que j'étais très sensible à ce volet-là. Fait ça fait partie du pacte social qu'on s'est donné, là.
Alors. Le temps file, donc cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, je vous remercie vraiment pour votre participation. Merci à vous tous d'avoir été présents, en espérant que vous en aurez appris un peu plus sur la biométhanisation. Et je vous invite à nous rejoindre demain à 10h30, alors qu'il sera question de nouvelles technologies à la ferme. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir été à l'écoute au cours de la dernière heure, en espérant que vous en savez maintenant un peu plus sur la biométhanisation. Au plaisir de vous retrouver pour les deux autres panels de discussion où il sera question de nouvelles technologies et de bien-être animal. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir un courriel au balado@laterre.ca ou encore à nous envoyer un message sur notre page Facebook. D'ici là, je vous dis... À la prochaine.